France Inter.
L'écrivain Fatou Diome est un remède à la mélancolie, j'avais déjà pu le constater il y a quelques années dans l'émission du même nom. Alors, je pourrais la présenter en disant qu'elle représente l'Alsace, ayant élu domicile à Strasbourg lors de son arrivée en France, ou qu'elle représente le delta du Saloum, en pays sérère, puisqu'elle est née à Niodor, au Sénégal, sur l'île de Gior, face à la pointe de Sangomar. Je dis tous les noms parce que, écoutez bien, Saloum, Sérère, Niodor, Gior et Sangomar, c'est un endécasyllabe d'un envoûtant poème, c'est magnifique. Et alors, je fais très attention à la langue, chers auditeurs. Par conséquent, je dois vous avouer que le verbe « représenter » est inexact et ne peut pas être employé pour notre invité, puisque Fatou Diome ne représente aucun espace enserré dans de quelconques frontières. Son humanisme, son universalisme sont à l'opposé de toute réduction spatiale. Membre de l'Académie royale de langue et de littérature de Belgique, naturalisée française, pétrie de culture européenne, africaine ou américaine, cette affranchie lumineuse possède une famille littéraire aux quatre coins du monde. Alors certes, elle ressent parfois le blues des émigrés, comme elle le nomme. Oui, la notion de chez soi reste floue pour celle qui est parfois qualifiée de toubab au Sénégal, soit le terme employé en Afrique de l'Ouest pour désigner un blanc. Mais l'auteur des romans Le ventre de l'Atlantique, Inassouvi Novi ou Les veilleurs de Sangomar, des essais Marianne porte plainte et Le verbe libre ou Le silence et des recueils de nouvelles La préférence nationale et De quoi aimer vivre, est une solide combattante. Comment se bat-elle ? Avec de la tendresse. Ça vous paraît mièvre ? Moi, j'affirme le contraire. Il est si facile d'éprouver de la haine pour son prochain, c'est à la portée de tous. Alors je ne dis pas que la mièvrerie n'existe pas. Je dis qu'il n'est pas question de cela ici et que ce dont il est question ce soir nécessite du courage. On va en parler et on va aussi parler du dernier livre d'un matelot défenseur de la liberté intitulé « Aucune nuit ne sera noire » et paru chez Albin Michel. Bonsoir et bienvenue dans la 20e heure.
France Inter. La 20e heure, Eva Bester.
Bonsoir Fatou Diome.
Bonsoir Eva Bester.
Quelle est la dernière chose qui vous a enthousiasmé ?
J'ai mangé une glace mirobolante à la noix de coco avec un coulis de fruits rouges. Donc j'avais l'Europe et l'Afrique dans mon assiette, j'ai tout mangé.
C'était où on a le droit de donner
C'était à Cologne.
D'accord.
Et c'était magnifique. Et donc, j'ai visité des parcs pour me connecter à la nature après avoir fait une plongée interminable pour vous écrire ce petit livre.
Petit et grand livre. Qu'est-ce que vous préférez en Alsace ?
Déjà la découverte et puis la cathédrale me montre que ben, tout va bien, elle est toujours à l'endroit. Donc quand après chaque voyage, quand je repasse devant la cathédrale, j'ai toujours le même émerveillement que j'ai eu en 1994 quand je suis arrivée du Sénégal. Je ne sais pas combien de fois j'ai visité cette cathédrale, il m'arrivait de rester dans la salle au fond pour lire en été, c'est frais dedans.
Oui, c'est vrai
dedans.
Que c'est frais.
C'est impressionnant, ça, c'est calme, c'est, ça protège. Et puis voilà, on peut y prier tous les dieux, y compris même les dieux animistes.
Ça, on va en parler de l'animisme un peu plus tard. Qu'est-ce que vous préférez à Niodor ?
À Niodor, déjà les endroits qui sont marqués par l'empreinte de mon grand-père. Donc son champ de mil à Baha, l'autre à Fanjong, l'autre à Djakarouet et puis à Kokonganyara où je lui portais parfois le déjeuner en traversant le bras de mer à la rame avec notre petite pirogue salindène.
Puisque votre grand-père était pêcheur et
oui,
vous emmenait souvent.
Oui, un marin pêcheur. Oui, c'est un marin pêcheur. Vous savez, là-bas, sur ces îles-là, ce sont des pêcheurs, mais aussi des agriculteurs, des pasteurs. Donc, ils ont du bétail, ils font l'agriculture et puis la mer donne le reste. Donc, on est marin là-bas depuis des générations. Et mon grand-père, j'étais son petit matelot. On allait parfois en campagne de pêche sur l'île de Sangomar, justement, en face de Niodor. Ou alors sur d'autres îles désertes aussi, et puis même jusqu'en Casamance, à Carabane.
On va parler beaucoup de votre grand-père ce soir, Fatou Diome. Mais vous savez, c'est amusant puisque vous l'appelez mon capitaine, et vous
oui.
savez que le capitaine dans les affinités électives, c'est le meilleur personnage de Goethe.
Ben voilà.
C'est un homme extraordinaire d'une noblesse folle.
Comment vous faites pour trouver toutes mes histoires d'amour cachées là ?
Ah, alors, on est deux sur le coup avec Goethe. Mais
exactement, quand vous êtes en Alsace, vous êtes sensible à Goethe, qui a même eu une maîtresse dans un village pas loin de Strasbourg. Donc oui, je suis exactement au milieu de l'Europe, à Strasbourg. Pour moi, c'est l'endroit idéal quand on veut découvrir la culture européenne. Donc évidemment, Goethe, c'est un de mes amoureux. Et ce qu'il dit de la poésie rejoint ce que Schiller dit de cette poésie-là. Et dans leur humanisme, je cherche aussi mon grand-père là-dedans. C'est peut-être pour ça que je les aime.
Y a-t-il une langue que vous aimeriez apprendre que vous ne possédez pas, ou un pays que vous n'avez pas visité?
Ah, par exemple, lire Schiller dans sa propre langue,
en allemand.
Ou lire Goethe dans sa propre langue, c'est quelque chose qui me... Quand je vois la chair de poule que je peux avoir en lisant ou en prenant quelques citations dans les lettres pour l'éducation esthétique de l'homme au XVIIIe siècle de Schiller, par exemple, il y a une telle poésie quand je lis son poème « Les artistes ». De lire ça dans sa propre langue, ça doit être quelque chose d'énorme. Donc voilà, c'est une frustration que j'ai et je pense que ma vie ne suffirait pas pour apprendre l'allemand. Et puis voilà, j'aimerais aussi perdre mon complexe en anglais parce que faire les conférences en anglais directement dans la langue de Shakespeare, par exemple, sans hésiter, je veux dire, ça doit être quelque chose de beau. Donc voilà, j'ai une soif des langues. J'en ai que sept.
Que sept?
Oui.
Alors là, je vais vous demander de les énumérer. Le sérère.
Donc forcément, la langue de ma grand-mère et de mon grand-père, le sérère, le wolof, le peul, un peu le mandeng parce que les Serer Nyominka nous sont mélangés avec les mandeng. Donc évidemment le français, l'anglais, puis un peu d'espagnol.
C'est tout?
Ah c'est tout, mais alors ne pas comprendre le grec, c'est quand même quelque chose que je jalouserais toujours à Senghor.
Oui, mais ça je comprends. Je voudrais apprendre toutes les langues aussi. En fait, on est très faustienne finalement.
Oui, on devrait nous donner des vies
à rallonge.
Voilà, il faut faire du rab.
Ouais.
150 ans pour commencer, ce serait pas mal.
Et puis des semaines de 15 jours.
Oui, et puis repasser par exemple le parcours scolaire dans d'autres langues à chaque fois. Et écrire d'autres livres dans d'autres langues.
Mais on séchera quelques cours quand même parce que...
Oui, pour aller manger une glace.
La 20e heure. Eva Bester sur France Inter.
Fatou Diom, tout à l'heure vous avez dit que parmi les sept langues que vous parliez wolof.
Oui.
Mais quand vous étiez petite, vous ne parliez pas wolof et vous ne compreniez pas pourquoi vous étiez la seule à porter votre nom de famille et pourquoi il suscitait chez certains du mépris.
Oui, dans mon village, donc à Nyodior. Donc, alors, Dior, en fait, c'est une petite île à côté. Donc, ça fait partie de l'espace géographique de Nyodior. Donc, le village lui-même, c'est Nyodior. C'est d'ailleurs l'arrondissement de ces îles-là. Quand j'étais petite, j'étais la seule et l'unique. C'est normal pour une princesse, non?
Oui.
Donc, à m'appeler Diom sur cette île-là. Mais absolument la seule. Mais je ne le savais pas. Je l'ai appris à l'école. Donc avec les sobriquets des enfants, toi l'étrangère, ton père n'est même pas d'ici. Ah bon, mon père n'est pas d'ici. Donc première question. Donc c'est, vous vous sentez indexé. Il y avait plein de noms qui se répétaient dans la classe. Et moi, quand on disait Fatou Diom, ben, c'était l'unique, la seule dans toute l'école et dans tout le village. Et petit à petit, j'ai compris ce que cette remarque-là cachait. C'est ce que je reproche aux loups en Europe.
C'est-à-dire?
C'est une forme de xénophobie.
Mais alors, Diom, ça a une signification en wolof? Ça vient de quelque chose en wolof?
Ah non, moi je ne le dis pas, sinon ce n'est pas bon pour mes chevilles.
D'accord.
Donc Diom, c'est honneur, c'est dignité, c'est fierté, c'est courage. Donc on parle du Diom, le Diom. Mais Diom, dans l'histoire aussi pour le Halpular, c'est propriétaire. Parce que voilà, les Diom, c'était des chefs terriens, des propriétaires terriens, des gens de l'aristocratie.
Votre grand-père maternel, dont on va beaucoup parler ce soir, vous a donné beaucoup de conseils. Et il vous a dit une chose, notamment en mer, quand le vent soufflait trop fort et que vous pleuriez.
Oui.
Tu crois que tes pleurs vont nous ramener plus vite au village? Allez, rame. Et vous avez retenu la leçon, Fatou Diom, en vous disant les Jérémiades ne sauvent rien.
Non, les Jérémiades ne nous sauvent de rien. Il disait, allez, rame plus vite, tu rames plus vite, on arrive à terre.
Mais vous pleurez parfois en cachette quand vous êtes seule?
Ah oui, mais attends, mais quand je pleure, je vous dis, je pleure avec détermination. Ça aussi, il faut le faire avec sincérité. Je vous prends un litre d'eau et puis un rouleau de sopalin, et je mets Tears of Lisbonne, la musique la plus triste que je trouve, et je m'installe et je fais ça avec conviction. Et puis quand j'ai fini, je me regarde dans la salle de bain. Waouh, t'es moche quand tu pleures. Oh. Et donc là, je souris.
Parce que vous dites que ça ne vous intéresse pas, je vous cite le mode victime et oiseau blessé.
Non, parce qu'en fait, quand on se plaint devant quelqu'un, et ça m'arrive, hein, donc mes pauvres amis, désolé pour vous, consolation, mangez une glace. Il m'arrive de dire à un ami, ben, j'en peux plus, j'en ai marre de ceci ou de cela. Et puis bon, et puis j'ai hâte du moment où je pourrais lui dire, ben, j'ai retrouvé une forme olympique. C'est, on lutte pour ça, je pense que c'est comme la mer. On passe entre les vagues, on navigue, ça chaloupe, il y a des creux, il y a des crêtes, on les traverse. Il faut juste les accepter, les reconnaître pour ce qu'elles sont, ces vagues-là, et après on peut les traverser. Mais mon grand-père m'a toujours dit, mais tu sais, le ventre ne raconte jamais ce qu'il y a dedans. Donc ta tristesse, tu la connais quand tu la nommes, quand tu la racontes aux gens. Si tu ne la racontes pas et tu luttes, eh ben t'es fier de toi quand tu t'en sors. Par exemple, si tu pleures en mer, quand on arrive au village, ils me demandaient toujours, t'as pas, on est où là? Ben, on est à Nyodior. Eh ben, t'as pas honte, tu pleurais avant.
Il y a des zones géographiques pour les larmes.
Mais oui, voilà, donc il faut pleurer en cachette et puis se réconcilier avec soi-même pour y aller avec détermination.
Et ça, ça prend 100, 150 ans à peu près de se réconcilier avec soi-même.
Ah oui, oui, là, j'y travaille. C'est pour ça que j'écris mes bêtises. Toutes les nuits, j'interroge cette personne qu'on appelle Fatou qui habite mon enveloppe corporelle. Je me demande ce qu'elle me cache. Je creuse et je veux qu'il y ait du courage à prendre quelque part. Et je le prends chez mon grand-père, chez les gens que je rencontre. Tout à l'heure, je vous ai dit Strasbourg, la cathédrale. Mais à Strasbourg, la cathédrale, c'est une litote. Si elle est solide, ce sont des hommes qui sont solides derrière. Ce sont les bâtisseurs qui sont solides et puis ceux qui maintiennent tout ça. Donc voilà, les œuvres des humains sont des litotes qui nous apprennent quelque chose.
Vous, ceux qui vous ont le plus appris, ce sont vos grands-parents que vous considériez comme vos parents, puisque votre mère de naissance, vous la considériez comme une grande sœur. Et vous racontez que votre grand-mère a fait la sage-femme et vous dites... Elle aurait
exactement
pu m'étouffer comme le voulait la tradition. Comment ça, la tradition?
Ben, elle m'a raconté, donc, et puis elle n'est pas la seule, hein, d'ailleurs. Vous savez, ce sont des sujets où les gens sont tellement mal à l'aise qu'ils préfèrent se mentir plutôt que de regarder les choses. Oui, il y a des gens qui tuent encore des enfants nés hors mariage. Il suffit de lire la presse sénégalaise ou la presse africaine d'une manière générale. On appelle ça les enfants illégitimes, ce qui pour moi est impropre parce que si l'humain-là était illégitime, le bon Dieu n'aurait pas voulu son existence, n'est-ce pas? Et puis qui décide de la façon de naître? Qui commande son père et sa mère et puis la date de naissance, par exemple? Et on dit les enfants illégitimes. Moi, je dis les enfants dits illégitimes. Donc, c'est tout l'enfer de l'esprit des humains s'exprime dans leurs paroles. Ils disent les enfants illégitimes. Bon, et quand on regarde ça et on voit ma grand-mère qui s'est dévouée dans cette époque-là, qui était quand même beaucoup plus conservatrice, et elle a tenu tête. Et elle m'a élevée. Et avec son mari, les deux m'ont appris à redresser la tête. Tu as ta place ici. Pourquoi? Parce que ces considérations d'enfants illégitimes ne sont venues qu'avec les religions. Alors je vais vous dire une chose. Le christianisme et l'islam se donnaient parfaitement la main pendant la colonisation pour ranger les femmes derrière et piétiner leurs droits. D'ailleurs, dans des textes anciens de la colonisation, ils disaient qu'il fallait limiter l'éducation des filles à l'école élémentaire pour ne pas les détourner de leurs devoirs naturels. Donc, à savoir faire la domestique et faire des enfants. Bon, et ça, ce sont les religions qui ont limité la liberté, les droits de ces femmes serrères. Parce que dans ma région, on est matrilinéaire. L'héritage, par exemple, se transmettait par la lignée maternelle. Donc, on disait chez nous, on est noble par le lait. On porte le nom de son père par courtoisie, mais on appartient à la tribu de sa mère. Donc moi, je suis une Djahanora, fille de Hale Hale, héritière de Ouagadou et encore de Djahanora. Vous voyez, et c'est comme ça qu'on s'identifie chez nous, avec les lignées maternelles.
Vous avez été élevée par vos grands-parents. Qu'est-ce que vous avez en vous de vieux prématurément dans votre perception des choses et que gardez-vous d'éternellement jeune?
Mais beaucoup de choses chez moi, c'est vieux. Par exemple, quand je voyage pour 2 jours à Paris, j'amène une valise de quoi tenir pour 2 semaines. Parce que mes grands-parents me disaient toujours, il vaut mieux amener trop de bagages que pas assez. Si jamais t'es bloqué. Et ça, c'est vraiment une sagesse d'ancien. Alors, je ne jette pas beaucoup. J'ai été écologiste avant l'heure. Je rafistole, je maintiens des choses. Je ne suis pas du tout consumériste. Je suis comme mes grands-parents. La sagesse, pour moi, elle est parcimonieuse. Donc, en cela, je suis une vraie, vraie enfant de vieille personne. Et alors, ce que j'ai de jeune chez moi, c'est que je suis toujours la petite fille de mes grands-parents. J'ai l'impression que je n'ai pas franchi le cap adulte ou quoi. Donc, chère Eva, je vous regarde comme une espèce de caste que je n'ai pas encore intégrée, les adultes.
Ah mais pas du tout, mais moi je suis pas adulte.
Ah ben alors restons gamine.
Bah bien sûr, moi j'ai 8 ans et demi, ça va pas ou quoi?
Mais oui, mais voilà.
J'ai aussi 158 ans parfois.
Mais parfois j'ai 150 ans, mais j'ai du mal. Donc il y a une gamine dans moi, d'ailleurs c'est elle qui écrit. Donc moi quand j'ai une belle page, je sais que je la dois à la gamine de 13 ans dans moi.
Bah elle connaît plus de mots que tous les adultes que je connais dans mon existence.
Elle
cette
est plus
gamine.
Libre. Mmh. Elle est plus libre, elle est... Elle, je l'aime bien la gamine.
Mais alors,
l'adulte dites... m'encombre.
Oui, mais peut-être que vous pourriez faire la paix avec l'adulte.
Non, mais je ne sais pas, le monde des adultes est compliqué, en fait, je ne sais pas. Ils sont
il
trop
pas
sérieux.
Marrant surtout, oui, ben voilà, on s'accorde sur ça. Vous dites que c'est par l'écriture que vous essayez de vous extraire de vos chaos, au
oui.
pluriel, intérieur, depuis l'âge de 13 ans.
Oui.
Votre gamine, elle a 13 ans
parce, oui, elle a 13 ans parce que c'est là où j'ai commencé à écrire de manière beaucoup plus construite et permanente, on va dire. J'écrivais toujours mes petits poèmes, des petites choses. Mais j'ai quitté le village quand j'ai eu le certificat et l'entrée en sixième. Donc j'ai quitté mon village pour aller vivre dans une famille d'accueil, ensuite une autre, ensuite une autre. Et après j'ai été louer ma petite chambre à moi pour me débrouiller. Et donc l'écriture m'accompagnait et la lecture. Et les deux se nourrissaient d'ailleurs. Et je pouvais dire dans mes cahiers ce que les autres ne voulaient pas entendre. Par exemple, si je posais des questions sur mon père, il y a certains de la parentèle, la réponse était une baffe dans la figure. Alors que mon cahier, je pouvais lui demander tout ce que je voulais, demander si mes parents étaient amoureux. Oui, j'ai eu la réponse. Mon père a dit qu'il était red dingue de ma mère. Ma mère m'a dit la même chose. J'ai d'ailleurs retrouvé une photo de mon père planquée dans son album. Tant pis pour ses maris. En tout cas, la belle histoire d'amour du début, elle est restée dans le cœur de ces jeunes-là. Et je suis le fruit de cet amour-là, que personne ne compte sur moi pour baisser la tête parce qu'il n'y a pas plus légitime qu'une fille de l'amour.
Pourquoi est-ce que ça vous terrifiait, l'idée de publier au départ?
Parce que j'avais peur qu'on voie ma folie.
Enfin, mais ce n'est pas intéressant de ne pas être fou.
Oui, mais c'est le problème, c'est que... Vous voyez, un enfant est conformiste.
Oui.
Moi, quand j'étais petite, je voulais faire comme tout le monde. C'est épuisant. J'ai tout essayé. Je n'y arrive pas. Et même maintenant, je n'y arrive pas. Je pense que j'ai quelque chose de bizarre. Je ne le pense pas, je ne le sais pas. Ce sont les gens qui me le disent. Et comme ils me le disent et que ça ne sert à rien de réfuter, je dis ok, disons que c'est comme ça. Et comment je me débrouille avec ça? J'écris. J'écris tout le temps. Parce que c'est ma manière de déblayer, d'analyser mon chaos et d'accepter. Et de me pardonner. Et de pardonner aux gens. Voilà, d'occuper ma place tout simplement sur cette planète.
Aïssatou, j'essaie de cerner mes fautes dans l'échec de mon mariage. J'ai donné sans compter. Donné plus que je n'ai reçu. Je suis de celles qui ne peuvent se réaliser et s'épanouir que dans le couple. Je n'ai jamais conçu le bonheur hors du couple, tout en te comprenant, tout en respectant le choix des femmes libres. Mes enfants accepteraient difficilement une autre présence masculine. Leur père condamné pourrait-il être tolérant pour un autre? Quel homme d'ailleurs aurait le courage d'affronter 12 pères dieux hostiles qui vous décortiquent sans ménagement? Aïssatou, je n'oublierai jamais la femme blanche qui, la première, a voulu pour nous un destin hors du commun. Notre école. Revoyons-la ensemble. Verte, rose, bleu, jaune, véritable arc-en-ciel. Verte, bleu et jaune, couleur des fleurs qui envahissaient la cour. Rose, couleur des dortoirs aux lits impeccablement dressés. Notre école. Entendons vibrer ces murs de notre fougue à l'étude. Revivons la griserie de son atmosphère les nuits, alors que retentissait pleine d'espérance la chanson du soir, notre prière commune.
Extrait d'une si longue lettre. Bravo Fatou Diom, oui. Mariam Abba, lu par Aïssa Maïga. Vous avez réécrit une version de ce texte
oui.
où les femmes n'étaient plus victimes de leur sort.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous dire un mot sur le livre et sur Mariam Abba pour les auditeurs qui ne les connaîtraient pas?
Alors, Mariam Abba, je pense, pour les filles de ma génération, c'est la révélation du féminisme. Bon, ok, c'est pas, elle ne monte pas sur les barricades avec une fourche. Hein. Elle décrit ce qu'elle voit, elle décrit sa vie très posément, très calme. Donc je lui soupçonne une équanimité qui ne sera jamais la mienne. Donc elle a une forme de tranquillité dans l'écriture que je n'ai pas. Elle est plus calme, plus posée, elle décrypte. Les choses sont comme ça. Mais moi, je l'admire, je la respecte. Elle a révélé la génération de femmes à laquelle j'appartiens. Nous avons découvert notre condition en Afrique en lisant Maria Maba. Mais moi, quand j'étais au lycée, j'ai réécrit ce livre à ma façon. Parce que j'étais révoltée de voir comment les femmes subissaient. C'est une chose de dire, il m'arrive ça et ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais pour cela? Et c'est ça que je reprochais au livre. Tout en l'aimant beaucoup, je l'ai même enseigné en Allemagne, en respectant beaucoup l'auteur, en l'admirant, et pour toujours, parce que c'est parce qu'elle a ouvert la porte que des filles comme moi existent. On a suivi les traces. Mais je revendique le droit de casser les tables, parfois avec ma révolte, là où elle décrit. Parce que je pense que décrire et dénoncer ne suffit pas, il faut proposer aussi. Et alors j'ai la prétention d'essayer de proposer. Et pardon, parce que ça n'enlève rien au respect que j'ai pour elle.
Mais non, ne vous excusez absolument pas, au contraire, on a besoin de ça. Mais la question que je me pose, c'est ce qui vous arrive d'être découragée? Parce que quand on vous voit faire tout job, moi j'imagine une guerrière altière, une reine, toujours la tête haute, qui combat, mais quand même, il y a des fois vous êtes un peu découragée.
Ah mais je me décourage, mais si vous savez le nombre de fois par semaine, ce serait même inquiétant.
Bah donc c'est vraiment du courage.
J'essaie de tenir. C'est... Pour moi, cette vie, c'est un voyage. On est en route. Donc si je m'affale, je ne termine pas le chemin. Je vais faciliter la tâche à la rôdeuse des ombres. Je refuse de céder une minute de ma vie à la rôdeuse des ombres.
C'est la mort.
C'est la mort. Et je vais me battre jusqu'au bout. Mais je me décourage parfois, je me trouve même inutile. Récemment, j'ai lu sur un journal sénégalais, encore un bateau, pour l'immigration clandestine. Donc pour l'auteur que je suis, ça me dit que le vent de l'Atlantique était totalement inutile. Ça ne sert à rien, ça ne change rien. Je l'ai écrit en 2003. Et encore maintenant, il y a des gens qui meurent dans ces pirogues-là. Donc je me sens absolument impuissante.
Et vous avez écrit Les Veilleurs de Saint-Gomard, c'était juste après la tragédie du Jola.
Oui.
Un bateau, vous avez interrogé plein de veuves, d'orphelines.
De femmes.
Ça vous
oui.
a pas... Ça a été bouleversant, j'imagine, comme expérience.
Oui, et vous savez, comme je dis toujours, j'écris toujours des livres qui m'empêchent de dormir, qui m'habitent, qui me lèvent la nuit, qui m'obsèdent. Il faut vraiment que je l'écrive, ça. Donc, je n'écris pas parce que je veux écrire. J'écris parce que c'est mon mode de vie, c'est ma manière de survivre, en fait. Et là, quand vous traitez des sujets, d'ailleurs, je pense que je le dis même dans ce livre aussi, la pire torture faite à l'humain, c'est ce sentiment d'impuissance. C'est de s'indigner pour des choses, de vouloir les changer, de ne pas en avoir les moyens. Moi, je n'ai pas une plume qui signe des décrets. Donc, je peux dire, j'aimerais faire ça, j'ai telle idée pour telle chose, mais j'en ai tous les jours. Mais je n'ai pas la puissance ni l'autorité pour faire ça. Donc, je me sens comme une espèce de bouffon du roi. Vous savez, les gens qui, dans la cour, là, se permettaient de dire les choses parce que ben, face aux puissants, l'artiste, c'est un enfant qui rêve, en fait. Et moi, je garde ce rêve-là parce que ben, c'est ma seule force, finalement. Un papier et puis un stylo.
Ça peut être une grande force.
France Inter. La 20e heure. Eva Bester.
A man is a two-face. A war is something who leave you to sing. The blues in the night.
Bon, j'en ai profité, Fatou Diom, pour mettre ma chanteuse préférée, c'est Julie London, et c'est Blues in the Night pour deux raisons. Parce que vous parlez de blues tout le temps dans votre dernier livre, Aucune nuit ne sera noire, et puis Night pour la nuit, évidemment, bon, c'est pas très original. Mais donc là, on parle de ce livre paru chez Albin Michel, hommage à votre grand-père maternel, votre capitaine, comme vous l'appeliez, aujourd'hui disparu, qui a joué dans votre vie un rôle déterminant. Vous voulez le nommer?
Saléou Ndoukou. Sar, et non seulement je le nomme, mais je vous dis ça de visa insérère. Sar Mbundukumba Djamkangu Njankoya Langfanyam Sar Djabanga Djab Ndafanyanga Fonypa Fabit. Traduction, Sar Mbundukumba, donc on dit sa lignée. Quand il accepte quelque chose, il l'accepte pleinement. Mais quand il refuse quelque chose, il combat farouchement. C'est ça sa devise, et c'est la devise de sa lignée paternelle, les Sar.
Et c'est aussi votre devise?
Ah mais oui, forcément, c'est pour moi, c'est mon modèle d'homme, cet homme-là.
C'est un philosophe. Il vous a... Tous les propos que vous rapportez sont d'une sagesse inouïe.
Et vous savez quoi? J'en ai encore de quoi faire au moins 4 livres.
Bah, si j'attends.
Si je pouvais avoir un éditeur assez fou pour permettre cela. Mais j'ai tellement retenu de choses que parfois je me dis, mais ils vont penser que je l'invente. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai des cassettes, j'ai des carnets aussi.
Mais vous avez pensé à l'enregistrer, c'est précieux.
J'ai enregistré, pas tout, mais j'ai quand même des bandes. Et c'est un homme qui parlait avec des images. Vous savez, il y a la culture orale africaine. Alors, je n'aime pas quand on met tradition orale dans mes livres, quand il y a des images dans mes livres, ce n'est pas des proverbes que je traduis, c'est ma propre folie qui parle. Pascal fait des pensées, il n'est pas né à Ouagadougou. Ok. Donc, quand je cite mes grands-parents, je le signale. Mais mon grand-père, c'est quelqu'un qui parlait peu. Mais quand il parlait, j'avais l'impression qu'il avait tellement réfléchi, pour bien placer les mots. Et la phrase, elle sortait, elle me restait dans la tête.
Bah, le travail donne ce qui fait les tiards, le port de tête.
Exactement. Voilà, ça. Donc, oui, vous allez à la pêche, ben, il vous offre une rame, quoi. Le bonhomme, vous êtes une fille, il vous amène une rame, il vous offre ça avec un sourire et une telle fierté. Et moi, je suis un peu déçue, quoi. Je veux une tête du genre... un petit collier m'aurait fait plus plaisir, peut-être. Et il me dit, souris, mon petit matelot. Plus tard, tu verras. Le travail donne ce qui fait les tiards, le port de tête. Et son port de tête m'a protégée de tout.
Vous dites, d'ailleurs, c'est grâce à lui que vos nuits ne sont plus noires. Et vous dites avoir écrit ce livre comme on partage un bienfait avec des amis.
Oui, je trouve que j'ai eu de la chance parce que quand les gens parlent de ma naissance, ok, mes parents, ils étaient jeunes, ils avaient 18 ans. Donc, ils n'ont menti à personne, ils n'ont trompé personne. C'était la découverte des fleurs bleues. Ils sont tombés amoureux, ils n'ont pas attendu la permission d'une église ou d'une mosquée. Et moi, j'ai débarqué. Donc, je pense que j'ai toujours été casse-pied, en fait. Je n'ai pas attendu qu'on m'autorise à intégrer ce monde. Et j'arrive. Tout le monde s'attendait au pire. Et cet homme-là m'accueille. Il redevient papa quasiment. Il avait plus de 60 ans à ma naissance. Et le voilà qui se dévoue. Et il me disait toujours, je veux t'accompagner au moins jusqu'à tes 20 ans, que tu puisses te débrouiller. Et j'ai eu une chance incroyable. Il est parti, j'avais 33 ans. L'âge du Christ.
Au meilleur de sa forme.
Exactement. Et il est parti avec toute sa tête à 96 ans. Et ça, c'est un minimum, hein, puisqu'il se souvient quand on lui a fait ses papiers. Donc,
c'est jeune, 96 ans. Eh ben, c'est l'adolescence.
Oui. Eh ben, moi, je trouve qu'il aurait pu encore tenir 50 ans. Bon. Il y a un grand quelqu'un là-haut qui fait n'importe quoi.
Alors, ça, c'est vrai. Ça, on peut le dire assez souvent. Dans votre livre, Fatou Diom, bon, on parle de mort, mais d'une façon... J'allais dire très joyeuse, mais non, d'une façon très poétique et d'une façon remplie de lumière. Et à nouveau, ça peut paraître mièvre comme ça de dire d'une façon remplie de lumière, mais non, parce qu'on a tous pleuré terriblement des morts qu'on a adorés et mettre un peu de lumière dans ça. Est-ce que vous pouvez nous parler des croyances qu'il y a autour de la mort au Sénégal, parce que c'est magnifique?
Alors moi, d'après ce que j'ai retenu de mes grands-parents, je pense que quand on pleure trop ces morts et qu'on s'en... Ouais, je suis émue, et qu'on s'en remet pas, c'est parce qu'on les situe mal dans l'espace. Et le temps d'avant, le temps de maintenant, le temps de demain, dans la concomitance d'une même vie, tout ça existe en même temps, comme dans la physique quantique. Donc mon grand-père, il est dans ce studio. Chère Eva, vous ouvrez bien les yeux. Peut-être qu'il passe juste derrière vous, mais les gens ont du mal à y croire. Mais si vous avez cette conviction, elle vous sauve, elle vous accompagne. Donc pour moi... avec un héritage de cette culture animiste, nos morts ne sont pas morts parce que leur esprit vit en nous. Donc c'est pour ça que je réponds, j'ose objecter à Cicéron quand il dit que la vie des morts consiste à vivre dans l'esprit des vivants. Moi, c'est l'inverse. C'est plutôt ma vie qui consiste à survivre dans l'immortalité de mon grand-père. Qui me porte encore.
Cicéron est en exergue de votre livre, et il y a cette très belle citation, mais c'est quand même chouette d'imaginer les morts avoir justement une vie et un travail encore. Et vous nous encouragez à accueillir les morts que vous qualifiez de contingent, de garde du corps qui ne coûte rien en dehors d'un moment de méditation.
Ils ne réclament même pas un bon salon. Ils débarquent partout, vous n'avez pas besoin d'un grand fauteuil pour les accueillir. Il suffit d'y penser, de vous recueillir. Nous avons l'île de Sangomar, c'était le sanctuaire des serrères. C'était nos Champs-Élysées à nous. Nos ancêtres sont supposés se réunir à Sangomar et ils accueillent chacun de nous qui arrive. Du coup, pour le décès, pour les serrères, en tout cas avant les religions monothéistes très dominantes et dominatrices, avant tout ça, on considérait qu'on changeait tout simplement d'espace avec la même fluidité que vous changez de pièce dans votre maison, avec la même fluidité, nous changeons d'espace dans l'univers pour rejoindre les morts qui se réjouissent d'accueillir des membres de leur famille. Pendant que les gens sur Terre pleurent, les autres qui font partie de la même famille se réjouissent de l'autre côté de nous accueillir. Donc,
même quand... s'ils ne s'entendaient pas de leur vivant.
Ah ben moi, par exemple, quand je partirai, évidemment, c'est mon grand-père et ma grand-mère qui m'accueilleront.
Oui, voilà, parce
que ne pleurez pas trop. Mangez une glace et écoutez Bach.
Oui, mais on ne peut pas manger des glaces tout le temps. Mais oui, on va écouter Bach, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on entend, Fatou Diom?
Les polyphonies serrères de Yandeko Doussen, la cantatrice de Léopold Sédar Senghor. Et donc, c'est aussi votre cantatrice chère Eva, parce qu'elle a une voix qui me donne la chair de poule.
Bah, j'accepte.
Voilà.
Alors, j'aimerais qu'on reparle des esprits, les pangoles, dans la religion serrère.
Oui.
Dieu, enfin le Seigneur, c'est Rogsen.
Oui.
C'est ça?
Oui.
Et je crois qu'on ne peut pas s'adresser à lui directement, il faut passer par les esprits.
Oui, c'est pour ça que nous invoquons nos ancêtres qui doivent intercéder pour nous. On considère que Dieu, c'est l'unique, quelle que soit la religion, nous on est universaliste, hein. Donc que vous le vouliez ou pas.
Mais je le veux.
On colonise tout le monde mentalement.
Allez-y, colonisez-moi.
Exactement. Donc nous, notre dieu Rogsen, il est universaliste. Donc,
il est hermaphrodite.
Exactement.
Ça, c'est fou.
Il est homme et femme. Donc Rogsen, d'ailleurs, on pense plus au féminin pour le fait d'engendrer tout ce qui existe. Donc il est à la fois mâle et femelle. Et il est créateur de tout, de toutes les humanités possibles. Donc, et de toute la nature. C'est pour ça que chez nous, une plante, une tortue, un poisson, une chèvre, ben, ils ont les mêmes droits que Fatou Diom, parce que nous existons dans le même cercle de la vie. Donc on dit Rogsen, sen, ça veut dire nulle part, parce qu'il est partout. Donc on ne peut pas l'assigner à résidence. Et ensuite on dit Rogsen, donc
je l'ai très mal prononcé.
Orthographe, Rogsen. Ouais. Ouais. Non, il y en a deux.
Ah.
Rogsen, c'est Rog nulle part, parce qu'il est partout.
Oui.
Et Rogsen, pour dire Dieu l'unique.
D'accord.
Donc, que vous soyez chrétien, musulman, juif, taoïste, bouddhiste, tout ce que vous voulez, vous restez quoi que vous fassiez, mon frère ou ma sœur.
Si je suis une gaufre, je suis votre sœur.
Mais si vous êtes une gaufre, je vous mangerai avec respect.
Écoutez, c'est la meilleure fin que je pouvais souhaiter. Alors, votre livre est très, très musical. Est-ce que comme Flaubert, vous avez une langue musicale, est-ce que comme Flaubert, vous vous lisez à voix haute?
Ben, il doit squatter mon apôtre, le Flaubert.
Ben, c'est ce qu'on m'a dit. Ouais.
Eh ben oui, parce que moi, je fais les 100 pages, je récite. Les gens pensent qu'on écrit juste avec le clavier et nos mains. Moi, le matin, j'ai mal aux jambes parce que j'ai arpenté tout l'appartement toute la nuit en récitant. Donc, je récite d'abord avant d'écrire. Il faut que ce soit agréable à l'oreille. Un mot peut être juste et ne pas me convenir dans sa sonorité, dans son rythme, le tempo de la phrase. Donc, je vais trouver autre chose pour que ça soit charmant pour l'oreille aussi.
Que sont, dans vos traditions, les libations et les offrandes? Je dis dans vos traditions, puisque
oui,
c'est votre grand-père qui vous en a parlé.
Oui, alors lui, il faudra que je lui fasse des grillades de poisson. Hein.
Ah.
Mais normalement, on met des céréales et puis on met du lait caillé. Et mon grand-père, comme il adorait son moni, donc cette fameuse bouillie de mil avec du lait caillé, eh ben, on va lui faire ça de temps en temps. Pourquoi pas une choucroute aussi, hein.
Ah oui.
Eh bien, il a qu'à tester, le garçon. C'est lui qui m'a appris à voyager alors qu'il vient avec moi.
Vous aimez ça, la choucroute?
Ah oui, aux trois poissons, je dévore tout de suite.
Ah oui,
vive l'Alsace.
Vous êtes un chic type, je le savais. À un moment, vous vous livrez dans le livre, bon, à une réflexion sur la mort, bien évidemment, et au mot « jamais », dont en fait, seule la mort garantit la véracité.
Oui.
Et vous dites « jamais », ça commence où, ça s'arrête où,
oui,
ce que ce mot-là prend, les trous qu'il fait au cœur des humains, Seigneur, dis-moi quand et comment s'en remet-on?
Oui.
Est-ce que vous avez trouvé la réponse? Est-ce qu'on s'en remet, en fait?
Non, on s'occupe en attendant d'aller trouver les gens qui sont invités à jamais là-haut. Donc, par exemple, ben, la maman de mes frères et sœurs, je dis ça parce que c'est ma grand-mère, la maman, hein, pour moi. Donc, elle est partie à jamais. La seule manière de survivre à ça, c'est de s'occuper d'une manière intéressante ou plaisante, de découvrir la vie, l'humain, le monde, en attendant d'aller les retrouver. Et sans inquiétude. Hein.
Sans inquiétude.
Et oui, enfin une sieste tranquille, quoi.
C'est vrai?
Mais oui, franchement. Et puis mon grand-père qui va me faire un sourire du tonnerre de Dieu. Allez, petit matelot, on part. Larguez les amarres.
Ne soyez pas trop pressé tout de même.
Non, non, je ne suis pas pressée. Si vous êtes gentil avec moi, j'aurai 150 ans.
Ah bon, bah je le ferai, je le ferai. Alors, vous interrogez aussi la mémoire et vous écrivez « Oublier, c'est œuvrer sur soi. L'oubli n'est souvent qu'un vœu, une volonté, jamais un acquis. » Vraiment?
Oui, mais
on
là...
On ne choisit pas?
Non, là, je vais taquiner M. Boris Cyrulnik, que j'adore. Mais je trouve que lui, quand il parle de la résilience, ouais, il explique tellement en profondeur. Et je trouve que souvent, des gens s'approprient ce mot résilience trop facilement, sans y mettre la profondeur que lui, il y met dans son analyse. Quand on le lit attentivement, on sait que c'est un long travail sur soi. Mais on parle de résilience comme si on fallait tordre le métal et puis le redresser et tout est parfait. Non, je pense que dès qu'on pense oublier, le simple fait d'avoir la conscience de vouloir oublier rend la douleur présente à nouveau. C'est le jour où on ne pense plus à cette volonté d'oubli, en fait, qu'on est déjà réparé.
Vous m'avez fait découvrir un poème. Est-ce que vous pourriez lire les deux premières strophes, s'il vous plaît? C'est « Souffle » de Birago Diop.
Pour l'anecdote, Birago Diop est né la même année que mon grand-père et la même année que Léopold Sédar Senghor, 1906.
Waouh, ça commence bien.
Alors, souffle. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans l'ombre qui s'éclaire et dans l'ombre qui s'épaissit. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans l'arbre qui frémit. Ils sont dans le bois qui gémit. Ils sont dans l'eau qui coule. Ils sont dans l'eau qui dort. Ils sont dans la case. Ils sont dans la foule. Les morts ne sont pas morts.
Merci Fatou Diom pour cette découverte. Là, on parle de deuil, mais on en parle entre plein d'éclats de rire. Et il y a quelque chose qui ressort dans Aucune nuit ne sera noire. C'est un sport national, d'ailleurs, on dirait que vous décrivez. C'est l'art de chambrer.
Oui, taquiner.
Alors, tout le monde, non, mais tout le monde se taquine. C'est-à-dire que si on faisait ça dans toutes les villes que je connais, les gens se bagarreraient dans la seconde. Est-ce que c'est ça qui a fait que vous ne semblez pas trop susceptible?
Mais je suis susceptible comme une puce.
Ah bon?
Oui, sauf que je vais faire des vacheries, des vannes pour rigoler de ça. C'est-à-dire qu'on a la sensibilité. Pour moi, l'humour, c'est aussi parfois une manière de se guérir, d'ailleurs, de sa sensibilité. C'est une manière de se mettre une petite pommade et de mettre une pommade aux autres pour moins les blesser. C'est une manière parfois de dire la stricte vérité sans offenser aussi. Donc, il y a quelque chose pour moi de classe et d'assez effronté dans l'humour, mais qui est très délicat.
It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes, it will. It's been too hard living, but I'm afraid to die. 'Cause I don't know what's up there beyond the sky. It's been a long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. I go to the movie and I go downtown. Somebody keep telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change.
gonna come. Oh, yes, it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me, please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, there've been times that I thought I couldn't last for long, but now I think I'm able to carry on. It's been but I know a change gon' come. Oh, yes it will.
Et le standard de ce soir, c'est Sam Cooke, A Change Is Gonna Come. Et nous espérons qu'il sera positif avec Fatou Diom, dont on découvre maintenant le choix musical. Moi, je dis Bach, mais vous, vous êtes alsacienne, donc vous prononcez beaucoup mieux tout ce qui est germanique. Allez-y.
Les amis allemands m'ont appris que je ne devais pas dire Bach, mais Bach.
Je viens de faire une blague très mauvaise en cabine. J'ai dit Jean-Marc Barr et j'ai rigolé toute seule. Fatou Diom, on entend Courante, piste numéro 3 des suites pour violoncelle de
Barr,
interprétée par
Peter Whispelway.
Waouh,
magnifique.
En plus, vous savez parler alsacien.
J'apprends.
Vous pouvez nous dire un mot en alsacien?
Ah, guten Morgen, je bis sommer à toute l'Alsace. Bonjour à toute l'Alsace. Bonsoir plutôt.
Alors revenons à Barr.
Barr.
Savez-vous jouer du piano, du violoncelle, des instruments?
Non, j'ai un piano et une guitare à la maison, et ben ils vont porter plainte contre moi. C'est de la maltraitance instrumentale.
Et vos voisins?
Ah non, ils n'entendent rien, j'ai mis des écouteurs. Heureusement pour eux.
Ah. Est-ce que vous écrivez en musique?
Toujours, systématiquement.
C'est vrai?
Ah oui, toujours.
Mais quand vous le dites vos phrases à voix haute, là, il n'y a pas de musique.
Si vous écoutez pendant longtemps la musique, c'est comme une bulle. Vous portez le tempo dans vous, vous n'entendez plus la musique. Ça vous habite, ça vous habille. Et moi, ça me porte le tempo de mon souffle quand je récite.
C'est quoi ta première rencontre avec le français?
Mais dans la rue.
Dans la rue.
Dans la rue, comme tous les enfants. La langue a été imposée. Quand j'allais à l'école, il nous était imposé de parler la langue française. On nous imposait ça, les cours, les leçons étaient données en français. Nos ancêtres étaient des Gaulois. Moi, j'ai récité que mes ancêtres étaient des Gaulois. Heureusement qu'autour de moi, il n'y avait pas de classe, mais c'est après que j'ai découvert que bon, les Gaulois existaient, mais ce n'étaient pas mes ancêtres. Bon, mais c'est moi, je ne vais pas pleurer pour cela. La langue m'apporte, ne m'appauvrit pas. Ça va parler la langue de l'autre, autre vie. C'est très bien.
Fatou Diom, vous avez consacré votre thèse à l'écrivain et réalisateur Ousmane Sembène, qu'on entend au micro de Christine Delorme en 92. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de lui?
Ben lui, c'est un guéloir, un vrai rebelle, un homme debout, un vrai poète, un humaniste. Et il disait toujours que les sociétés changent par leur périphérie, ensuite ça vient vers le centre. Alors pensons au petit peuple, et c'est ça qui change le monde. C'est un vrai artiste, c'était un ami. Et voilà, un des premiers à m'encourager sur ce chemin d'écriture, et encore une révérence pour lui.
Eh bien alors, juste avant de vous saluer, j'aimerais donner un de vos conseils qui est aussi précieux que ceux que vos grands-pères vous ont donnés. Le ressentiment retient, freine, réduit les possibles. Libérez-vous, croyez en votre potentiel. N'écoutez pas ceux qui vous martèlent que votre avenir est oblitéré. Cela véhicule une mentalité de perdant. Merci beaucoup.
Merci Eva Bester.
Je rappelle qu'Aucune nuit ne sera noire est paru chez Albin Michel. Vous serez au Salon du Livre de Morges les 5, 6 et 7 septembre, ainsi qu'à celui de Nancy le vendredi 12 et samedi 13 septembre. À signaler aussi dans votre ville à Strasbourg une rencontre suivie d'une dédicace à la librairie Kléber le vendredi 19 septembre à 18h. Cette émission a été réalisée par Lola Costantini, préparée par Céline Villegas, Louise Morfouas et Franck Olivard. À la programmation musicale, Juliette L'Orphelin, à la technique, Laurent Baudin aujourd'hui avec une moustache.